أما بعد،
نبدأ بإذن الله تعالى
بالدراسة. إن شاء الله كمصير يتجي لو تكست دو تخوا فوندمون.
قبل البدء،
avant de commencer, avant d'étudier ce livre-là, on veut savoir plusieurs choses. Pourquoi étudions-nous le monothéisme? Si quelqu'un te dit, pourquoi étudies-tu l'unicité d'Allah? Pourquoi n'étudions-nous pas la grammaire ou les parts d'héritage ou la jurisprudence ou telle et telle matière de la science? Pourquoi a-t-on choisi l'étude du monothéisme et de l'unicité d'Allah? Parce que l'unicité d'Allah est l'obligation la plus obligatoire et la première des obligations. Et Allah n'accepte aucune adoration sans l'unicité d'Allah Ta'ala. Et ne rentre au paradis que le monothéisme. Toute la sécurité, la guidée, la quiétude est dans cela. L'expiation des péchés, l'augmentation des bonnes actions. On ne peut pas se passer d'Allah Ta'ala, ne serait-ce qu'un instant. Dans cela, il y a la vie du cœur. Ça, c'est la première question. Pourquoi étudions-nous le tawhid, le monothéisme? Deuxième question. Pourquoi avons-nous choisi ce livre pour étudier? Ça, c'est le conseil des savants. Et nous ne sommes que des élèves. Et nous devons obligatoirement revenir au conseil des savants pour étudier. Troisième question. Quels sont les trois fondements? Les trois fondements, en résumé, sont les questions posées dans la tombe. Tu seras interrogé dans ta tombe sur trois choses. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Voilà ici les trois fondements. Si quelqu'un te dit, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un cadeau à gagner si j'étudie cette matière, ce livre-là en particulier? Oui, si tu apprends les trois fondements et que tu les mets en pratique et que tu appelles les gens à en faire autant et tu patientes, Inch'Allah, tu seras capable de répondre aux trois questions de la tombe. Et ça, c'est la meilleure des récompenses et le meilleur des cadeaux qu'on puisse t'offrir. Cinquième question. Qu'est-ce que contient ce texte béni? Si on voulait résumer ce livre-là, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait qu'il y a cinq parties dans ce livre-là. Première partie, les quatre questions. Seconde partie, les trois questions. Troisième partie, pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah? Quatrième partie, l'explication des trois fondements. Et dernière partie, la conclusion. Qui peut me répéter ces cinq parties-là? Donc, première partie, les quatre questions. Et ces quatre questions-là, elles sont réunies dans la sourate du temps, à l'Asr. La science, l'action, le prêche et la patience. La deuxième partie, les trois questions. Et on verra que les trois questions sont une chose et les trois fondements sont une autre chose. Troisième partie, pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah? Et ça, on l'a vu ensemble il y a quelques instants. Quatrièmement, l'explication des trois fondements. Et enfin, dernièrement, la conclusion. Quatre questions, trois questions. Pourquoi étudions-nous le tawhid? L'explication des trois fondements et la conclusion. Ça, ce sont les cinq parties du livre. Donc on va commencer Donc la première partie, les quatre questions. Les quatre questions, on a dit que c'était la passion, la science, la pratique, le prêche et la patience. Tu dois connaître avant toute chose, obligatoirement, la science. Comme dans le verset, sache que nul n'est être adoré en dehors d'Allah. Et ensuite, implore le pardon pour ton Seigneur. Donc la science précède l'action. Lorsque tu as appris, tu dois pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu es confronté à une menace terrible. Et parmi les premiers qui vont attiser le feu de l'enfer, un savant qui n'a pas appliqué sa science. Trois personnes qui vont servir les premiers à attiser le feu de l'enfer et parmi eux un savant qui n'a pas mis en pratique sa science. Hein? La science, elle a appelé la pratique. Elle lui dit, viens. Si la science, la pratique, elle vient, alors la science, elle reste. Mais si elle ne répond pas à l'appel, alors la science part. Donc tu dois apprendre avant toute chose. Ensuite, tu dois pratiquer en second. Ensuite, tu dois appeler à cette chose que tu as appris et que tu as mise en pratique. Si j'ai un trou sur le chemin, et une personne, il marche sur ce chemin-là et il est sur le point de tomber dans ce trou-là. Et une autre personne le voit, ainsi que le trou. Hein, est-ce qu'il doit le laisser tomber dans le trou ou l'avertir? Il doit l'avertir et lui dire de faire attention, de ne pas tomber dans ce trou-là. Si jamais la personne la tombe dans le trou, est-ce que tu vas aller voir comment il va? Oui, tu dois aller voir. Tu vas aller voir comment il va. Donc tu dois obligatoirement voir, faire attention aux gens qui sont sur le point de s'égarer ou bien qui sont tombés dans l'égarement. Ça c'est dans des choses visibles, concrètes qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand il s'agit de trous, des trous de l'enfer? On doit obligatoirement faire en sorte que les gens n'y tombent pas. Et pour cela, il faut obligatoirement la science, ensuite la pratique, ensuite appeler les gens à tout cela. Après, il a dit la patience. Tu es patient sur quoi? Tu es patient en premier sur la science. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter dans l'apprentissage. Ensuite, tu patientes dans la pratique. Ensuite, tu patientes quand tu appelles les gens à cela. Et si tu arrives à faire cela, Inch'Allah, tu seras capable de répondre aux questions de la tombe. La patience se divise en trois catégories. La patience face à l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Prière, jeûne, aumône, pèlerinage et autres. Patience dans l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Deuxièmement, patience à l'encontre de la désobéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit évitée. Donc patienter pour ne pas désobéir à Allah et donc éviter de tomber dans sa désobéissance. L'association et tous les grands péchés et tous les petits péchés. Troisièmement, patienter à l'égard des décrets d'Allah. Parce qu'Allah décrète dans la destinée. Quand tu tombes malade, quand tu deviens pauvre et autres. Quelle est la preuve de ces quatre choses? La science, la pratique, l'appel à cela et la patience. La science, la pratique, l'appel à cela et la patience. Quelle est la preuve? La sourate Al-Asr, du temps. Allah, il a juré dans le temps, par le temps. Et Allah jure sur ce qu'il veut de ses créatures. Quant à nous, nous n'avons le droit que de jurer sur Allah. Et celui qui jure sur autre qu'Allah, il a mécru ou fait de l'association. Être humain, il est dans la perdition. Tous les êtres humains sont voués à périr et à perdre. Mais sauf, il y a une exception, ce sont ceux qui ont cru. Et pour cela, il faut connaître, savoir. Et ensuite, font des actions vertueuses, donc les pratiques. Qui se recommandent mutuellement la vérité, donc ils appellent à cela et se recommandent mutuellement la patience. Après, l'auteur a cité la parole de l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, que si aucun autre argument que cette sourate avait été exposée aux gens, ça leur aurait été suffisant. Après, l'auteur a cité l'obligation de connaître avant de parler ou d'agir. Quelqu'un qui a de la science, mais qui ne met pas en pratique cela, ou bien qui pratique sans avoir de science. Et ces deux-là ressemblent aux gens du livre. On doit apprendre et ensuite agir. Après cela, l'auteur a cité, car Allah lui fasse miséricorde, les trois questions dans la seconde partie. Avant de commencer à les citer, on voudrait expliquer la définition de l'unicité et les trois parties de celle-ci. L'unicité, linguistiquement parlant, est le fait de rendre plusieurs choses uniques. Et dans la terminologie de la législation, c'est le fait de considérer Allah Ta'ala comme un temps unique dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Donc l'unicité se divise en trois catégories. Seigneurie, adoration et noms et attributs. L'unicité de la seigneurie consiste à considérer Allah comme étant unique dans ses actions. Ou de considérer Allah comme étant unique dans la création, la royauté et la gérance de toutes choses. L'unicité de l'adoration, de la servitude ou de la divinité, c'est le fait de considérer Allah Ta'ala comme étant le seul à devoir être adoré. Ou de considérer Allah Ta'ala comme étant seul à travers les actions des serviteurs. La prière, le jeûne, l'aumône et toutes les autres adorations ne doivent être vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, l'unicité des noms et attributs, qui consiste à considérer Allah ta'ala comme étant seul par les noms qu'il s'est donné lui-même ainsi que les attributs avec lesquels il s'est qualifié dans le Coran ou sur la langue de son messager alayhi salatu wassalam. Ce qui consiste à affirmer ce qu'il a affirmé de lui-même et de nier ce qu'il a nié de lui-même, sans modifier le sens, ni les vider de leur sens, ni rechercher le comment de cela, ni leur accorder une ressemblance avec ses créatures. Donc, quelles sont les trois questions en résumé de la deuxième partie? Les trois questions en résumé, premièrement, consistent à considérer Allah Ta'ala unique dans la seigneurie et les noms et attributs. La deuxième question consiste à considérer Allah Ta'ala unique dans l'adoration. Et la troisième consiste à se désavouer de l'association et de ses partisans. Qui peut me répéter ces trois questions-là brièvement? Première question, considérer Allah Ta'ala comme étant unique dans la seigneurie et les noms attributs. Allah, il nous a créés, c'est le créateur. Il nous a tout donné, c'est le pourvoyeur. Et il ne nous a pas laissés sans but, sans ordre ni interdiction. Il nous a envoyé un messager, Mohammed, qu'Allah prie sur lui et le salue. Celui qui lui obéit rentre au paradis, et qu'Allah nous coûte parmi eux. Et celui qui le désobéit, c'est qu'il a refusé, celui qui refuse, c'est qu'il rentrera en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est la première question. Considère Allah comme étant unique dans la seigneurie et les noms attributs. Donc, considère Allah Ta'ala unique par ses actions qui lui sont propres, et noms et attributs. Deuxièmement, considère Allah Ta'ala comme étant unique dans l'adoration. Comme quoi Allah n'accepte pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit, qui que ce soit, quel que soit son rang. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Et la preuve, et certes, les mosquées appartiennent à Allah. Ces mosquées ont été bâties afin qu'on adore le prophète, les vertués, les anges, les démons. Non, les mosquées sont à Allah, appartiennent à Allah. N'invoquez avec lui alors personne, qui que ce soit. Ça englobe tout le monde, prophète, saint, démon, ange ou vertueux. Si tu trouves Quelqu'un qui adore autre qu'Allah dans une mosquée, tu dois lui réprimander. Avec quoi? Avec ce verset. Les mosquées appartiennent à Allah, n'adorez avec lui personne. Si quelqu'un il meurt et il enterre dans la mosquée, on dit non. Les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez alors avec lui personne. Quelqu'un dit on veut détruire la mosquée. Et on a un grand projet de faire un centre commercial pour les musulmans. On lui dira non, les mosquées sont à Allah, alors on n'y adorer avec personne. Les membres de la prosternation qui sont membres de 7, qui les a créés? C'est Allah. Donc, est-ce qu'il est possible que tu utilises ces membres pour te prosterner avec autre qu'Allah? Toute personne qui se prosterne pour autre qu'Allah, nous le réprimanderons avec quoi? Avec ce verset. Certes, la mosquée et ce qui sert à se prosterner appartient à Allah. Alors, n'adorez personne avec Allah. La terre qui nous a été offerte comme lieu de prière et de purification. Toute personne sur terre qui adore autre qu'Allah, on doit le réprimander avec ce verset. Les mosquées appartiennent à Allah. Et ces mosquées, qu'elles soient construites, ou que ce soit un endroit qui sert à faire la prière. Donc le mot mosquée, masajid dans ce verset, il peut indiquer soit la mosquée en tant que lieu, soit les membres qui servent à la prosternation, soit la terre sur laquelle on va faire la prière. Donc il est impossible d'attribuer une quelconque adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'unicité dans l'adoration, c'est le deuxième point de cette deuxième partie. Troisième point, obligatoirement pour le monothéiste, il doit se désavouer complètement et absolument et totalement de l'association et de ses partisans. Comment se désavouer de l'association et de ses partisans? Avec le cœur, avec la langue et avec les membres. Le cœur, les membres, la langue et les membres. Le désavoué avec le cœur, de détester la mécréance et les mécréants et tous les actes de désobéissance. Désavoué avec sa langue en disant clairement que je me désavoue de ce que vous faites, de ce que vous adorez. Comme dans le verset, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Avec les membres, ne pas participer avec les mécréants dans leurs célébrations, leurs fêtes et autres occasions particulières ou générales, quelles qu'elles soient. Le mécréant, c'est l'ennemi de qui? D'Allah. Si quelqu'un tue tes parents, tu vas le regarder et tu vas l'aimer et tu vas l'encourager? Non. Ibrahim, sous la paix et le salut, le père des prophètes, l'ami intime du tout miséricordieux, Allah, il a fait ses éloges, il a détruit les statues avec ses mains, et après cela, il a demandé à Allah de le préserver, de l'épargner. Il a dit, oh Allah, fais que l'adoration des statues soit d'un côté et que moi je suis du côté opposé. Je ne veux pas les approcher. L'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, quand tu vois, il dit, quand je vois un mécréant, je ferme les yeux de peur de voir un ennemi d'Allah. Le chat a dit une parole qui remplit tous les sens. Il dit, je fais tout pour moi ne pas voir le singe et que le singe ne me voit pas.
Il
Ça, c'est un petit poème qui contient une morale dans ce sens-là, si vous voulez. Après, on a donc on doit se désavouer de l'association et de ses partisans. Avec le cœur, la langue et les membres. Après cela, l'auteur a cité pourquoi est-ce qu'on étudie l'unicité d'Allah. Tu as été créé afin de manger, de boire et de t'amuser, de dormir, c'est vrai ? Bien entendu, non. Ce qui signifie que les bêtes sont meilleures que nous. Tu as été créé afin d'être un adorateur, un esclave d'Allah. Si quelqu'un il vient auprès de nous et prend cet appareil-là et il se met à creuser par terre, ou bien il frappe avec contre le mur, hein, il cloue, hein, il va planter un clou avec un téléphone de ce genre-là. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Qu'il est fou. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas que cet appareil, il a une valeur élevée. Il a été fabriqué pour communiquer ou envoyer des messages ou autre. Un autre, il rentre dans la mosquée et avec lui il y a une balle et un sifflet, un maillot et un short. Il rentre dans la mosquée. Qu'est-ce qu'on va lui dire, lui ? Rentre pas. Cet endroit n'est pas fait pour jouer au ballon. Cet endroit est fait pour adorer Allah. Et toi, si toi tu es fou, ou ivrogne. Tu as été créé afin d'être un esclave, un adorateur. Si tu t'occupes ici-bas avec l'adoration d'Allah Ta'ala, tu as fait la fonction pour laquelle tu as été créé. Si tu t'occupes ici-bas avec autre que l'adoration d'Allah, tu es comme celui qui creuse par terre avec un téléphone. Il ne sait même pas pourquoi à quoi ce téléphone il sert. Et toi, tu ne sais pas pourquoi tu as été créé. Tu as été créé pour adorer Allah. Et si tu adores Allah, alors tu seras tranquille et tu seras heureux. Le seul qui est heureux réellement, c'est le pieux. Regarde, pendant le mois du Ramadan, qu'Allah fasse qu'on l'atteigne. Le jour, tu jeûnes. La nuit, tu pries. Tu lis le Coran, ce que tu n'es pas en dehors du Ramadan. Tu en fais beaucoup, tu fais beaucoup d'actions. Et tu pries avec les musulmans la prière de Tarawih, et ainsi de suite. Et tu espères que l'année soit entièrement comme le mois de Ramadan, du Ramadan. Et tu te sens bien pendant le mois du Ramadan. Pourquoi ? Parce que tu as servi ton corps pour la fonction pour laquelle il a été créé. Grâce à Allah, tu n'entends pas que quelqu'un a été dans une mosquée, ou à la mosquée du prophète, ou à la mosquée sacrée, et s'est suicidé. Jamais tu entendras ça. Mais tu entends que les autres se suicident dans des endroits qui ont été soi-disant préparés pour que les gens se reposent et se sentent bien. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas asservi leur corps pour la fonction pour laquelle ils ont été créés. Même dans certains pays, ils ont créé des clubs, des centres spéciaux pour le suicide. L'euthanasie. Donc maintenant, il existe des centres où tu peux te rendre pour qu'on te tue. Tu peux te suicider, tu mets ton nom, tu remplis les informations, tu payes et te donnes le rendez-vous et au revoir. Et ce pays, il possède un tourisme propre au suicide. Donc, toute personne qui veut se suicider sur Terre, il peut se rendre dans ce pays-là pour que ce soit officiellement reconnu. Un musulman, il est rentré dans ce club-là. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te suicider? Là, je suis pas fou, moi. Est-ce qu'il y a un musulman qui existe qui se suicide? Non. Héraclius a interrogé Abu Sufyan, radiyallahu anhu. Et à ce moment-là, il n'était pas encore musulman. Abu Sufyan. Héraclius lui a dit, est-ce que ceux qui suivent le prophète apostasie en rejetant leur religion? Il a dit non, il n'est pas possible qu'un d'entre eux se apostasie ou se suicide. Alors il a répondu, Héraclius, c'est ça la foi lorsqu'elle s'installe dans les entrailles du cœur, au fond du cœur. Donc ce musulman est rentré dans ce centre d'euthanasie. Il a dit, moi je suis pas venu pour me suicider, je suis un musulman. Je veux que vous me fassiez un bureau dans votre centre. Toute personne qui veut se suicider, je lui parle. S'il est d'accord et il se convertit, alhamdoulilah. Et s'il refuse, alors c'est au revoir. Et chaque fois que quelqu'un voulait se suicider, il allait voir ce musulman et grâce à Allah, il refusait de se suicider par la suite. Donc tu dois être fier de cette religion. Une religion qui rend cette communauté heureuse. La saveur de la foi. L'aisance. Dans l'aisance, le croyant, il est reconnaissant. Dans la difficulté, il patiente. Quel étonnement il y a dans l'affaire du croyant, car tout ce qui lui arrive est pour lui un bien. Donc c'est les gens, hein, les gens de ce centre-là, quand ils ont vu l'effet que faisait ce musulman aux gens, ils ont dit, on veut faire un nouveau centre qu'on appellera le centre où il n'y a pas de suicide. Et qu'on te met dedans. Donc on a vu quel était le monothéisme et l'objectif de la création des êtres humains et des démons. Pourquoi ne fais-tu pas de ta vie que ta vie entière soit pour Allah subhanahu wa ta'ala? Dans le Coran dit, Allah dit, ma vie, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont à Allah, pour Allah, le Seigneur de l'univers. Aucun associé à lui. Et c'est ce qu'on m'a ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et si tu ne te suis pas cela, alors celui qui se détourne de mon rappel, je le ferai vivre une vie pleine de gêne, et je le ressusciterai le jour du jugement aveugle. Il dira, oh Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? On lui dira, c'est comme ça que mes signes te sont parvenus, tu les as oubliés, alors aujourd'hui nous te délaissons. Quand tu te fatigues en Europe, par exemple, tu rentres à la mosquée et tu te reposes et tu oublies toute chose. Alors que si tu rentres dans un stade ou bien dans un café ou autre, il est possible que tu aies envie de te suicider. Donc l'unicité, c'est la vie des cœurs. Si tu fais autre chose que cela, et tu te préoccupes avec autre que cela, tu es fou. Après cela, l'auteur, qu'Allah lui fasse mise au cas, a cité dans ce livre, la connaissance d'Allah, le fait de connaître Allah. Quel est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah. Celui qui m'a éduqué et a éduqué toutes les créatures avec ses bienfaits. Et c'est mon adoré. Je ne peux pas adorer autre que lui. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Dans quel sourate ce verset se trouve là? Ce verset se trouve dans sourate Al-Baqarah, la génisse. Je sais que vous connaissez le Coran, mashallah. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. La sourate al-Baqara, la génisse. Donc le premier verset dans le Coran, dans lequel Allah s'adresse à toute l'humanité, le premier appel, c'est un appel à l'unicité d'Allah. Le premier ordre qu'on trouve, c'est adorer. Donc le premier appel est un appel à l'unicité. Le premier ordre dans le Coran est un ordre de faire le tawhid, l'unicité. Et la première interdiction est une interdiction d'attribuer, d'assigner à Allah des équivalents. Donc, de l'association. Premier appel, premier ordre et première interdiction, tout en rapport avec le tawhid et l'association. Allah, subhanahu wa ta'ala, au début de cette sourate, a divisé les gens en trois parties. Des croyants, des mécréants et des hypocrites qu'Allah nous préserve et nous épargne. Et Allah il a beaucoup parlé des caractéristiques des hypocrites parce que c'est des choses qui sont subtiles à beaucoup de gens. Ensuite Allah Ta'ala il a réuni les trois catégories. Il a dit vous les gens croyants, mécréants et hypocrites, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire considérez-le comme unique dans l'adoration. Pourquoi? Car il vous a créé. C'est lui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé. Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Ensuite, Allah Ta'ala, il a cité les textes, les preuves et les arguments qui indiquent son droit ultime à l'adoration et le fait qu'il soit le seul créateur. Et après, il a dit, n'allez pas assigner à Allah des équivalents. Comment peux-tu considérer que quelqu'un d'autre est équivalent à Allah alors que c'est lui le créateur? Et vous leur attribuez ce que vous attribuez à Allah, Ta'ala, le créateur. La vocation, le sacrifice, le vœu ou autre. Comment peux-tu considérer quelqu'un équivalent à Allah Azzawajal? Alors que vous savez très bien, vous savez quoi? Vous savez qu'Allah Ta'ala, c'est lui le seul dans la seigneurie. C'est donc lui forcément qui doit être le seul à être adoré. Et vous savez très bien qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui mérite, comme c'est le seul seigneur, c'est donc le seul à devoir être adoré. Et le Seigneur, c'est celui qui est adoré. Vous êtes le seul créateur, le seul Seigneur, doit forcément être le seul à être adoré. Et les différents types d'adoration qu'Allah il a ordonné. Est-ce qu'il est permis ou possible d'attribuer quoi que ce soit de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aux prophètes, aux saints, aux anges ou aux vertueux? Toute personne qui attribue quoi que ce soit de l'adoration, ne serait-ce qu'une seule fois, ne serait-ce que sacrifier une mouche à autre qu'Allah, c'est un associateur mécréant. La grande mécréance. Et la preuve. Celui qui adore avec autre qu'Allah une autre divinité, il n'aura aucune preuve devant son Seigneur et son jugement incombe à Allah. Et certes, les mécréants ne gagneront jamais. On l'a vu précédemment. Donc là maintenant, mes frères, nous voulons connaître le jugement de l'action. Quant au jugement sur la personne, est-ce que c'est un mécréant, un innovateur, pervers? Ça, ce n'est pas à nous. Ça, c'est à qui? C'est aux savants. N'emploie pas le mot mécréant, pervers ou innovateur, ni toi ni moi. Mais reviens aux grands savants pour cela. Nous maintenant, on veut connaître le jugement de l'action. Quant au jugement sur l'acteur, on revient en cela aux savants dignes de confiance. Parce que certaines personnes excommunient en gros. Si quelqu'un vient, une femme par exemple, elle nous dit, mon mari, il m'a dit ça et ça et ça, est-ce que je suis divorcé? On lui répondra, oh là, on ne sait pas. On revient au grand savant. Parce que le fait d'exclure une femme de la responsabilité d'une femme, est quelque chose très très difficile et on ne peut pas le faire, comment est-ce qu'on peut alors exclure une personne de l'islam complètement? Les types d'adoration qu'Allah a ordonné, la vocation, l'invocation est l'adoration, comme le prophète a dit, et cette invocation se divise en deux catégories, l'invocation de l'adoration et l'invocation de la demande. L'invocation de l'adoration, quelle adoration? Toute adoration attribuée à Allah est de la grande association qui fait sortir de l'islam. Donc là, attribuer tout type d'adoration entre Allah Ta'ala est une grande association. Prier pour autre Allah, jeûner pour autre Allah, faire le pèlerinage pour autre Allah, tout cela est de la grande association. Ça, c'est l'invocation dans l'adoration. Deuxièmement, l'invocation dans la demande. Et celle-ci se divise en deux catégories. Il y a des choses que seul Allah Ta'ala est capable de faire. Quelqu'un vient à la tombe du prophète, et lui dit, Ya Rasulallah, donne-moi un enfant, ou bien fais descendre la pluie. Cela, le prophète ne peut pas le faire vivant. Comment est-ce qu'il pourrait le faire mort? C'est donc la grande association. Quand tu as demandé à quelque chose à une créature qui est capable d'accomplir, ceci est permis avec quatre conditions. Qu'il soit vivant, et présent, et capable, et que tu sois convaincu que c'est une cause. Je répète. L'invocation se divise en deux catégories. L'invocation de l'adoration, c'est le fait d'attribuer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, une prière, une aumône, un jeûne ou autre. C'est de la grande association, c'est l'invocation de l'adoration. Le second, l'invocation dans la demande, qui se divise en deux catégories. Ce que seul Allah peut attribuer, le faire à autre qu'Allah, c'est la grande association. Demander à un enfant ou la descente de la pluie au prophète, par exemple. C'est la grande association. Quant au fait de demander une chose à une créature que les créatures peuvent accomplir, c'est permis. Avec quatre conditions, qu'il soit vivant, présent, capable, et qu'on soit convaincu que c'est une cause. Donc si on dit vivant, ça exclut le mort. Si on demande à un mort, c'est la grande association. Si on dit présent, ça exclut l'absent. Si on appelle quelqu'un qui n'est pas là, eh bien c'est la grande association. Il faut qu'il soit capable, ce qui exclut l'incapable. Quelqu'un, par exemple, il est sourd. Et lui, il appelle. Et lui dit, aide-moi. C'est de l'association. Et la cause, il faut que tu sois obligatoirement convaincu que c'est une cause. Il ne faut pas que tu te dises que c'est lui qui gère la création et qui décide du bien et du mal dans ce que tu demandes. C'est de la grande association dans ce cas-là. Vivant, présent, capable, et que ce soit une cause. Que tu sois sûr que c'est une cause et convaincue. Les gens se divisent dans leur conviction vis-à-vis des causes en trois catégories. Allah, il a fait des causes légales et des causes concrètes. Si on croit que les causes considérées par Allah comme étant légales ou concrètes sont celles-ci, alors c'est valide, il n'y a pas de problème. Quelqu'un a mal au ventre, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Il se met à lire la Fatiha, par exemple. Ça, c'est une cause légale et c'est un remède légal. Donc c'est bon. Ou bien, par exemple, il va à la pharmacie et il prend un médicament ou bien de la menthe qui mélange avec de l'eau et dit Bismillah. Et Allah met dans cela de la guérison et il le boit. Est-ce que c'est bon? Oui, parce que c'est une cause concrète. C'est une personne qu'Allah nous guide ainsi que. Il met dans sa maison une tête de taureau, des yeux de loup, un sabot de cheval, des vieilles sandales, une main. Certaines choses qu'on prend dans la mer, comme des coquillages, des poissons, différentes choses, des arbres, ainsi de suite. Il écrit au-dessus de sa porte, la porte de sa maison, l'œil du jaloux ne réussira jamais. Est-ce que ça existe ce genre de choses-là? Oui, beaucoup. Le prophète, sallam, il avait des bêtes, et des enfants, et des femmes, et des, une maison. Est-ce qu'il a fait toutes ces choses-là, le prophète de la communauté? Non. Non. Est-ce que les compagnons en ont fait autant? Non. Pourquoi tu le fais toi alors? Il va te répondre parce qu'Allah en a fait une cause. Pour repousser le mauvais œil. Si tu crois cela, c'est de la petite association. Tu mens sur Allah. Tu mens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment peux-tu en faire une cause alors qu'Allah n'en a pas fait autant? Il va te répondre, à tel que je connais, il en a fait autant. On va dire, subhanallah, tu prends à tel comme exemple, et tu prends pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Est-ce que tu attestes que c'est vraiment le prophète? Il dit oui. Et bien dans ces cas-là, reviens au prophète. C'est lui le prophète de la communauté. S'il te dit non, ce n'est pas une cause. Tu vois la tête du taureau? C'est lui qui repousse les djinns et les démons et les diables. Ça, c'est de la grande association. Parce qu'il croit que cette créature a une incidence dans la création. Même les mécréants, on trouve même des différentes choses qui viennent de la Chine, qui sont achetées dans le but de repousser le mauvais œil. Ah, des fois, on trouve des autocollants dans lesquels on trouve Masha'Allah, Tabarakallah, prier sur le prophète, et que ces gens-là, ils les mettent dans ce but-là, dans le but de repousser le mauvais œil. Est-ce qu'Allah il a révélé le Coran jusqu'à ce qu'on le mette dans les voitures ou bien dans le lit des enfants ou autre? C'est qui protège les enfants, qui protège les maisons et autres? C'est Allah. C'est lui qui protège, c'est lui le protecteur. Allah il nous protège tous. Donc, les gens se divisent en fonction des causes en trois catégories. Les causes valides. Comme ce qui a été affirmé par Allah de façon légale dans les textes, ou bien concrète. Et le deuxième cas, c'est le fait de considérer une chose comme étant une cause qui n'a pas été considérée par Allah comme telle. C'est de la petite association. Et la troisième catégorie, c'est de croire que la chose en elle-même, c'est elle qui a une incidence sur les choses, que c'est elle qui protège du mauvais œil, c'est de la grande association. Même accrocher des versets du Coran dans ce but-là n'est pas permis. Ça n'a jamais été fait par le prophète ni par les compagnons, radiallahu anhu. Deuxièmement, la peur. Qui se divise en trois catégories. Premièrement, une peur d'adoration, de glorification, même dans le secret. Quelqu'un, il fait le ramadan, il se retrouve tout seul. On lui dit, vas-y mange, il n'y a personne. Il dit, non, Allah il me regarde, c'est lui qui crée. Celui qui crée les ténèbres, il me voit, où que je sois. Si elle parle de courant, par exemple à New York pendant 4 heures, eh bien ils ont compté un nombre de vols qui n'a pas été équivalent à ce qu'il y a eu en une année, pendant 4 heures seulement. Tu dois avoir peur d'Allah qu'il y ait de l'électricité ou non. Celui qui craint Allah comme il a peur d'autres qu'Allah, comme il a peur d'Allah dans l'adoration et la glorification et en secret, c'est la grande association qui fait sortir de l'islam. Le deuxième type de peur, c'est une peur naturelle, hein, comme avoir peur du feu, des brigands, des voleurs, ça c'est une peur naturelle. Troisièmement, une peur interdite. à désespérer la miséricorde d'Allah. Shaitan te fait désespérer la miséricorde d'Allah. Tu veux venir à la mosquée, tu dis non. Tu vas où? Tu dis à la mosquée. Tu dis non. Regarde, tu as fait tel péché déjà. Et tel autre péché. Regarde hier. Après l'Isha, tu as fait telle chose et telle chose. Va pas à la mosquée. Laisse tomber, c'est pas la peine. Il te faut désespérer la miséricorde d'Allah. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux de moi alors? Sache que les bonnes actions font disparaître les mauvaises. Ô vous qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Shaitan, il veut que tu désespères la miséricorde d'Allah. Ou il veut que tu obéisses à la créature dans la désobéissance du Créateur. Ah, le patron au travail te dit, écoute, tu pries, je te vire. Et si je fume, il dit, pas de problème, tu peux fumer, pas de problème. Tu peux boire, ça ne me dérange pas, tu peux boire, vas-y. Je te donne même gratuitement le vin si tu veux. C'est vrai, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans la société aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent interroger Cheikh et disent, moi j'ai pas le temps de prier. Cheikh dit, est-ce qu'il y a l'un des collègues à toi qui s'arrête de travailler pour aller fumer? Oui. Est-ce qu'ils font ça où? À l'extérieur. Combien de temps il reste 5 minutes. Si toi tu restes, si tu vas faire la prière toi, ça va prendre combien de temps? Moins de 5 minutes. 3 minutes, voire même 2. Tu vas au toilette par exemple? Il dit oui. Et si tu retournes, arrange-toi pour faire les ablutions avant d'aller au travail, et quand l'heure de la prière arrive, prie, et retourne travailler, et il n'y aura pas de problème. Ceux qui craignent Allah, Allah lui facilite une issue, et lui apporte sa subsistance d'un point auquel il ne pensait même pas. Si le mécréant voit de ta part que tu obéis à Allah, et que tu es consciencieux, et que tu fais tout ce qu'on te demande au travail, il va t'aider à faire la prière. Par Allah. Va, c'est l'heure de la prière, va faire la prière. C'est vendredi, va à la mosquée, va. Lui, il te demande de travailler. Donc la peur se divise en trois catégories. Adoration, glorification et dans le secret. Le faire à autre qu'Allah, c'est la grande association. Une peur interdite et une peur naturelle, instinctive, permise, comme avoir peur du feu, des bêtes, ainsi de suite. On a le sacrifice, sacrifié pour autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sacrifié pour Allah ta'ala dans ce qui est légiféré, dans les offrandes et dans les sacrifices. Et on a aussi les sacrifices qui sont permis, tolérés. Comme quelqu'un qui a un abattoir et qui va tuer des bêtes pour les vendre et ou les manger. Et donc ça est permis, il n'y a pas de problème. On demande à Allah qu'il nous accorde la réussite dans tout ce qu'il aime et agréé. Et qu'Allah il récompense toute personne qui a dit une cause pour cette invitation et l'organisation de ce séminaire. Et mes frères, nous on veut, avec ce genre de séminaire et avec ce genre de réunion, qu'on se réunit de la même façon que les compagnons se sont réunis, qu'Allah soit satisfait d'eux, et qu'on soit tous sur la même parole, et tous main dans la main, et que le petit respecte le grand, et que le grand respecte le petit. Et voilà, c'était plusieurs fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman atteint avec le bon comportement le degré de celui qui jeûne et qui prie la nuit. Et Allah dit encore entier à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles. Donc, le prophète a dit, nul d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cheikh Al-Azim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, alors tu as fait un grand péché parmi les grands péchés. Reprendre le salam, aider les musulmans, avoir des bons comportements, être poli, être pur envers ses parents, être doux, et autres, que de, parmi les choses qu'on a vues ensemble précédemment, qu'Allah